Oui, alors je m'en souviens très bien. C'était Tourangier. Il y avait eu une réunion des responsables du mouvement pour signer ce qu'ils appelaient le livre blanc qui était destiné à Fritz Trogoth-Wallen, qui était conseiller fédéral. Et puis, j'avais rencontré là Roland Béguin, je l'ai vu pour la première fois et j'ai été marquée par sa présence et aussi par son regard, avec ses yeux d'un bleu magnifique. Et puis, oui, il m'avait vraiment marquée d'une façon très, très forte et je comprenais cette aura qu'il dégageait autour de lui et ce charisme aussi qui était pour moi très fort. Il s'est révélé après. Auprès des gens qu'il côtoyait, etc., et dans les foules aussi.
Dans les foules, précisément, c'est quelque chose qui n'était pas complètement naturel, hein. Chez lui, c'était quand même quelqu'un de réservé, aller vers les gens, vers les foules, ce n'était pas forcément spontané.
Ah non, il était très timide. Il y a plein de choses qu'il n'aurait jamais osé faire, il était extrêmement timide. Mais en fait, c'est la question jurassienne, c'est cette passion qu'il a eue pour la sauvegarde de la langue française et de la culture, qui l'a poussé à sortir de sa réserve. Mais il n'était pas fait pour les foules, Roland. C'était toujours un peu une épreuve. Bon, bien sûr qu'avec le temps, il s'y est fait, mais c'était pas facile pour lui. Et pourtant, quand on entendait ses discours, on sentait bien le contact qu'il avait avec le peuple. Mais chez lui, ça passait aussi beaucoup par la raison, quoi. Il avait toujours un but, et puis il nous amenait en fait vers ce but d'une façon assez extraordinaire.
Souvent, quand on entend parler de Roland Béguin, on le présente comme un personnage dogmatique, autoritaire. Est-ce qu'il était vraiment comme ça? Et aussi dans le travail, puisque vous avez travaillé à ses côtés en tant que secrétaire de l'imprimerie de Boëchat.
J'ai commencé, oui, à l'imprimerie Boëchat, et puis j'ai trouvé quelqu'un dont je ne m'attendais pas à de telles réactions. D'abord, tous ces ouvriers, tous les gens de l'atelier vous le diront, il n'a jamais élevé la voix, jamais il a fait une remarque en criant ou comme ça. Il était très exigeant, c'est vrai. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, il disait. Quand il y avait une erreur qu'on constatait dans le journal qui était en train de tourner, il faisait arrêter les machines, oui. Mais pour le reste, eh bien, voilà, il était assez extraordinaire comme patron. En tout cas, il n'a jamais élevé la voix. Moi, je me souviens que le premier mois que j'étais là, j'avais fait l'erreur d'oublier un paragraphe dans une lettre qu'il fallait envoyer au Conseil fédéral, donc à la plus haute autorité du pays. Et puis, je constate ça après coup et je vais vers lui. Je dis, ben voilà, j'ai oublié de mettre ce paragraphe-là. Il m'a dit, bon, ben alors je vais vous dicter la lettre d'accompagnement et puis on invitera le Conseil fédéral à introduire ça dans la lettre qu'ils ont reçue précédemment. Alors j'étais vraiment extrêmement surprise que j'ai aucune remarque par rapport à l'erreur que j'avais faite. Donc il a toujours été comme ça. Bon, c'était pas la même chose, bien sûr, par rapport aux gens qui étaient ses égaux en politique. Là, ben, il disait les choses, même parfois assez véhémentement, mais jamais avec le personnel. Jamais il élevait la voix avec le personnel.
Justement, vous avez été hein, quelque part au cœur du réacteur de cette machine du Rassemblement jurassien. Il y avait des personnalités très fortes aussi à gérer, outre Roland Béguin, Roger Schaffter, mais aussi d'autres. Comment ça se passait, les liens entre tous ces personnages dont certains étaient quand même vraiment des tronches, hein.
Ah oui, vous l'avez dit, quoi. Il y avait de très fortes personnalités. Et puis, moi, ce qui me marquait, en fait, en travaillant là, et puis en militant, c'était qu'il y avait, comme vous le dites, des gens de toute obédience, de tous les partis. Mais comme nous avions un but commun, eh bien, Roland essayait toujours de prendre les qualités de chacun pour construire justement ce qui allait devenir un État jurassien. On ne le savait encore pas à l'époque que ça finirait comme ça, mais on l'espérait. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de me dire, eh ben oui, cette personne-là, dans telle et telle situation, elle ne pense pas du tout comme toi. Mais elle a le même but que toi dans la question jurassienne. Et là, ça me permettait de m'ouvrir aux pensées des autres, à ce que les autres ressentaient. Ça a été pour moi vraiment une école de vie. C'était une formation qui est venue avec le temps, une espèce de philosophie de compréhension des êtres en général.
Si je vous dis cette phrase, eh bien voilà, le Jura est libre, 23 juin 1974, phrase de Roland Béguin sur Les marches de l'Hôtel de Ville, vous vous souvenez de ce moment ?
Ah, moi ça m'émeut que vous parliez de ça, parce qu'on l'entend de temps en temps encore dans les reportages, à la télé, à la radio, où Roland dit tout à coup, il y a eu un calme comme ça, et puis il dit « Le Jura est libre, mais je l'entendrai, je crois, toute ma vie », cette phrase. C'est... Et encore maintenant, ça, ça me donne des battements de cœur, parce que ça signifiait que la chose était faite, oui. Même si, ben voilà, on a fêté ce jour-là, on a fêté pendant une semaine. Et moi, je me souviens que, ben on a fêté toute la nuit. Je suis rentrée chez moi, il était 6 heures du matin, je voulais aller me coucher. Je me suis couchée à 6 heures. Une heure plus tard, à 7 heures, je me suis relevée parce que le sommeil n'arrivait vraiment pas. J'étais trop excitée, donc je me suis relevée. Et j'avais besoin d'entendre à la radio, de voir écrit dans les journaux que nous avions gagné, que le Jura était libre. Il ne faut jamais oublier que nous avions gagné sur l'ensemble du territoire.
On ne peut pas parler de Roland Béglin sans parler aussi de Roger Schafter, hein, les deux pères fondateurs du canton. Ils avaient des liens étroits entre eux, des liens qui sont ensuite distendus, on va dire, pour des différents de stratégies. Roland Béglin, il en parlait avec vous, de Roger Schafter, de ce lien qu'il avait avec lui, qu'il avait peut-être perdu.
Mais oui, je pense que le lien n'a jamais été perdu hein, entre nous. C'était deux frères, en fait. Ils ont pas... Comme on peut y avoir des frictions sur telle et telle chose, on sait bien que c'était lié à une histoire très particulière. Mais voilà, non, ils se voyaient, ils se rencontraient de toute façon dans le cadre du conseil d'administration de l'imprimerie, qui était devenue l'imprimerie jurassienne. Et puis, en fait, non, Roger Schafter est venu à la maison, il est venu aussi voir Roland à Vercorin quand il était malade. Non, c'était une fraternité qui ne s'est pas cassée comme ça. On l'a montée en épingle, mais pour eux deux, c'était pas ça du tout.
Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mémoire qu'il y a eu un mot plus haut que l'autre de Roland Béglin sur Roger Schafter ou inversement, même s'ils avaient un différent sur la stratégie à adopter après la création du canton du Jura. Chacun a respecté finalement cette amitié.
Oui, alors, mais c'était venu d'un événement. C'est une partie des politiciens suisses qui voulaient venir ici dans le Jura pour fêter. Et puis que les Béliers avaient dit « Mais non, si Fourglaire vient, on va perturber le cortège. » Et puis Roger Schafter, qui était responsable de cette organisation, de cette manifestation, était fâché de ça. Et puis voilà, mais ça s'est arrêté là. C'était lié à cet événement-là, mais pas du tout à leur fraternité, à leur conception de la politique, mais pas du tout.
On va aborder peut-être un autre volet avec vous, c'est celui de votre engagement, je dirais, plus personnel. Vous avez commencé à militer au début des années 60 à la FDJ. Une des activités que vous étiez amené à faire, c'était à faire un peu du porte-à-porte. Vous pouvez nous raconter comment ça se passait ?
À l'époque, c'était Liliane Charmillot qui avait mis ça en place. On était une équipe d'une douzaine de personnes de Vic. Et puis, on allait dans tous les villages de La Joie, de la vallée de Dlémont, de Moutier. Et on était toujours en binôme avec une personne de Vic et puis une personne du lieu, du village qu'on visitait. Et on allait demander aux femmes si elles étaient d'accord de faire partie du mouvement jurassien, parce que le droit de vote allait se pointer, on le sentait, ou bien venait d'arriver. Et puis, en fait, les femmes n'étaient pas du tout politisées. Et c'était important, même si, Roland le disait bien, les femmes sont plutôt conservatrices. Donc, on n'a pas forcément intérêt, nous, jurassiens, à ce que les femmes votent. Mais ça permet de les engager en politique et puis qu'elles trouvent aussi leur place.
Ce porte-à-porte, on imagine que ça se passait pas toujours très bien.
Alors parfois on était très bien reçus, mais d'autres fois, non, on nous fermait quasi la porte au nez. Mais c'était pas important. De toute façon, on était une équipe et puis voilà. Mais parfois c'était vraiment, on était attendus. C'était bien. On était aussi consciente que c'était important pour nous, les femmes, de contacter les femmes et puis de les inviter à s'engager gentiment ou plus si elles le voulaient. Et c'était Oui, je pense que c'est une chose. Alors, ben voilà, un peu comme les actes de l'AFDJ qui ont été toujours assez discrets, mais en fait, je pense que ça avait leur efficacité.
Parce qu'il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, on est fin des années 60, début des années 70, les femmes n'avaient pas encore forcément le droit de vote. La politique, c'était une affaire d'hommes. Mais ça, Roland Béglin avait quand même compris que c'était aussi un électorat dont il fallait tenir compte et qu'il fallait sensibiliser à la politique et à la question jurassienne.
Oui, c'est certain. Ça aussi était le cas de Roger Schafter. Et puis, c'était aussi, je pense, la marque de leur épouse respective, qui étaient des personnalités fortes. Et je pense bien qu'elles ont dû aussi influencer ce côté-là pour leur mari.
Vous avez milité à la FDJ, vous avez participé à un certain nombre d'actions au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour sensibiliser finalement autour de la question jurassienne à l'international, on va dire ça comme ça. Il y a une anecdote dont vous vous rappelez à Strasbourg assez marquante.
À Strasbourg, où donc, je suis allée plusieurs fois avec la FDJ, oui, une fois on voulait apporter une lettre au Parlement. Et puis là, c'était en fait une délégation nominative, on était 10 et je faisais partie de la liste. Et moi, j'étais en costume pantalon, il n'y en avait encore pas beaucoup de femmes qui s'habillaient comme ça. Et puis, on m'a refusé l'entrée parce que j'étais en pantalon. Et comme c'était nominatif, je ne pouvais pas passer ma place à quelqu'un. Donc, on m'a passé un manteau de pluie, un long manteau de pluie, et moi, j'ai retroussé mes pantalons et je suis entrée comme ça. Ben voilà, il y avait encore des choses comme ça qui pouvaient se passer par rapport au code vestimentaire à l'époque.
Il y avait aussi, au sein de la FDJ, au sein de ces femmes qui militaient pour l'indépendance du Jura, une sorte, alors pas de fraternité, mais de sorellité qui s'est manifestée entre vous.
Ah oui, alors tout à fait, exactement comme par rapport aux hommes. Ce qui a été marquant, et c'était pour les femmes entre elles, pour les hommes entre eux, pour les hommes entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les plus âgés, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette région, dans ce pays, dans ce Jura. Parce que comme nous avions ce but commun, il n'y avait plus de barrière, ni dans un sens, ni dans un autre. Et puis, il faut aussi dire que souvent, nous avons eu peur ensemble. Quand il y avait les grenadiers à nos trousses, eh bien, je vous assure que là, ça créait des liens très forts. Et on a quand même connu ça souvent à Berne, à Moutier, etc. Donc là, il y a des liens vraiment puissants qui se sont créés à travers les peurs qu'on a eues. Parce qu'à l'époque, il fallait savoir courir vite. Hein, si on ne voulait pas se faire attraper ou se faire mettre en panier à salade, comme il y a eu 120 personnes à Berne pour la manifestation pour l'école romande. Là, c'était vraiment quelque chose qui nous a reliés. C'est peut-être pas ce qui était attendu par les adversaires, mais ça a créé des liens très forts qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui semblent même avoir passé les générations. Parce que maintenant, c'est imprimé dans une espèce d'inconscient collectif. Ces liens qui lient les Jurassiens entre eux et qu'on retrouve un peu partout.
Vous parlez des grenadiers, la police, il y avait aussi des surveillances policières autour des membres du rassemblement jurassien. C'est aussi quelque chose que vous saviez, entre guillemets, à l'époque ?
À l'époque, on ne savait pas, vous avez parlé des grenadiers, on avait fait ce qu'on appelle, paraît-il, la technique de la sauterelle. Hein. Les grenadiers, c'est ça qu'ils nous avaient appris, la technique de la sauterelle. Nous, on n'en savait rien, mais quand ils approchaient, on repartait. Quand ils repartaient en arrière, nous, on revenait. Donc, il paraît que ça s'appelle la technique de la sauterelle. Voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend. Mais pour ce qui est d'être suivi, oui, on ne savait pas. Bon, Roland avait été averti quelques fois qu'il y avait des gens qui le surveillaient. Ça, il le savait. Mais le peuple dans son ensemble, on n'en savait pas. Quand je dis dans son ensemble, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui étaient écoutés, suivis, etc. Personnellement, moi, j'ai eu 70 fiches sur moi, alors que, ben voilà, je ne faisais pas grand mal. Et Roland, lui, quand j'ai reçu ses fiches après son décès, il y en avait plus que 11 kilos de fiches. Alors vous rendez compte, tout le temps que la police bernoise a passé pour mettre tous ces gens sur écoute, sur fiche, etc. Il y a aussi eu des gens qui ont été mis sur écoute. Et là, j'ai une anecdote. C'est qu'un électricien spécialisé là-dedans avait reçu l'ordre d'un juge d'instruction de mettre une trentaine de gens sur écoute. En fait, c'était tous les responsables du Bélier de l'époque. Il a dû faire ce travail-là. Il avait donc une liste. Et puis, ce monsieur, qui était jurassien, mais pas plus que ça militant, mais jurassien, il s'est dit, non, mais ça, ce ne sont pas des bandits. Les autres que j'ai dû mettre sur écoute auparavant, c'était des bandits de grand chemin. Alors, il a été révolté par ça. Et puis, il a apporté à Michel Gurie, il a apporté la liste de ces gens mis sur écoute. Et Michel a averti tous ces gens mis sur écoute pour leur dire, ben voilà, fais attention à ce que tu dis au téléphone. Et du coup, ben les gens, ils disaient, ben voilà, Moreau, vache, enfin, etc. Quand on faisait des plaisanteries de ce type-là.
On va passer à un autre volet de l'engagement. On revient à Roland Béglin, mais c'est celui de la francophonie. Parce que la lutte du peuple jurassien ne s'est pas limité à la création du canton du Jura, c'était évidemment le but qui a été obtenu, mais il y a eu une fraternité qui s'est opérée avec toute une série de peuples de langue française, les Valdotins, les Québécois, les Wallons, etc. Roland Béglin, lui, il accordait une importance capitale à cet aspect-là.
Oui, Roland s'est rendu compte tout de suite de la grande solidarité qu'il pouvait y avoir entre ces peuples et il a fondé en 1971, je m'en souviens, c'était à Genève, avec un responsable valdotin et puis un wallon. Il a fondé la Conférence des peuples de langue française qui après s'est étoffée avec, bien sûr, la France, l'Acadie, le Québec. Et puis là, ben voilà, ça a été aussi là une grande ouverture à d'autres peuples. Et cette ouverture a aussi permis, nous a permis aussi à nous, eh ben de nous ouvrir davantage au monde encore. Et puis c'est aussi peut-être ça qui a créé une forte sensibilité à l'autre. Et non pas de rester là juste dans notre patriotisme, on va dire, mais de s'ouvrir à l'autre. Et on a vécu des choses juste extraordinaires. Moi, je me souviens, en 78, on était 250 jurassiens à aller au Québec. Et puis, on a rencontré là mais des gens juste merveilleux. Parce qu'en fait, on vivait les mêmes choses. Tout ce qui nous avait été dit avant par rapport au plébiscite, qu'on n'aurait plus telle rente, que les paysans n'auraient plus ci, que voilà, il y a plein de choses que si on se séparait de Berne, on n'aurait plus, ce serait la catastrophe. Eh bien, on les disait aussi aux Québécois. Bien sûr, c'était un peuple beaucoup plus grand, mais les arguments étaient les mêmes et adaptés, bien sûr, quoi. Alors là, il y a eu vraiment des choses merveilleuses. Et nous, on a passé là, dans ce château Frontenac, juste magnifique, que moi, ça me faisait rêver quand je regardais dans la roue sur la lettre Q, il y avait ce beau château Frontenac. Et un jour, je me retrouve là avec plein de jurassiens. Et on faisait la fête. On a tous des souvenirs incroyables, tout ça. Et quand on est reparti, là, à Mirabel, à l'aéroport, avec les 250 jurassiens, plus bien autant de Québécois, on pleurait tous de voir se quitter. Les liens sont restés très forts aussi avec les autres communautés. Et vraiment, ça a été une belle ouverture pour tout le monde. Et on retrouve encore ça dans la constitution jurassienne, hein, qui est à l'ouverture au peuple. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir davantage aux étrangers, à qui le Jura a été dans les premiers à accorder le droit de vote, d'abord communal, etc.
Il y a aussi un contexte, hein, à l'époque. Il y a les fameux mots du général de Gaulle, « Vive le Québec libre ». Il y avait une émulation, hein, autour de ces peuples francophones. Ça, on imagine que Roland Béglin, « Vive le Québec libre », il a bien compris le message aussi.
Ah oui, il n'y a pas que Roland qui a compris le message, mais je crois que tous les militants jurassiens ont compris que quand le général de Gaulle, qu'on suivait à la radio, hein, parce qu'il a refait le chemin, ce qu'on appelle le chemin du roi, donc, et puis il a senti vraiment ce peuple, le général de Gaulle, et puis avec toute son intelligence, sa sensibilité, etc., du haut du perron de l'hôtel de ville de Montréal, quand il a dit « Vive le Québec libre !» avec sa voix tellement forte, nous on a attendu « Vive le Jura libre !» Alors c'est certain, on en parlait tous après, il a presque dit « Vive le Jura !» mais en fait ça équivalait à ça, quoi.
Ça nous mène un peu au lien de Roland Béglin avec la France, des liens très forts autour de la langue française, à tel point qu'on l'a accusé d'ethnicisme. Quel lien il avait exactement avec la France, Roland Béglin ?
Bon, c'était charnel, on va dire. Ce lien était charnel. Roland était très francophile, il aimait beaucoup la France, la culture, la langue, etc. Donc. Et puis, il avait beaucoup de contacts, justement, avec des Français, tout ça, qui eux-mêmes l'admiraient beaucoup. Moi, j'ai entendu des gens dire des choses juste magnifiques de Roland. Ils avaient beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Et puis, puisqu'on parle de ça, Roland, quand il a été parlementaire, donc il faisait partie du bureau. D'abord, il a été nommé dans le bureau de l'Assemblée des parlementaires de langue française. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le petit Jura, qui avait un représentant dans ce bureau où il n'y avait pas beaucoup de personnes, hein, alors que ces parlementaires de langue française, c'était quand même sur 42 pays. Et ben voilà, pour dire aussi l'admiration qu'ils avaient pour tout ce qui avait été fait dans le Jura. Et bien là, moi, quand je l'accompagnais, ce que je voyais, c'est quasi à chaque fois, quand on allait dans les pays comme ça, et ben, c'est qu'il y avait des gens qui venaient près de lui, qui disaient, mais Monsieur Béglin, mais comment avez-vous fait? Parlez-nous du Jura, etc. Des gens d'un peu de tous les pays, d'Afrique, etc. Et puis, je me souviens qu'au Cameroun, Roland, quand il avait été... Donc, moi, j'avais accompagné avec d'autres. Et puis, quand il revenait à l'hôtel le soir après la séance de ce Parlement, il me disait, mais j'ai vu une personne là, vraiment, tu sais, très petite, peut-être 1m50, etc. Et puis, vraiment, une tête intelligente. Il me frappe. Il m'a dit ça 2 jours de suite. Le troisième jour, il me dit, mais tu sais pas quoi. Le monsieur dont je te parle, là, il s'est approché de moi, puis il m'a dit, vous êtes bien Roland Béglin? Puis j'ai dit oui. Puis il m'a dit, mais écoutez, je suis ce que vous faites dans le Jura, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Et puis voilà. Puis après, bon, comme on allait à Kribi, et puis que ce député, c'était un pygmée en fait. Comme ce député pygmée là, il a dit, mais écoutez, moi j'ai une maison à Kribi, mais j'ai aussi toutes mes concessions dans la brousse. Et je vous invite, la délégation jurassienne, à venir chez moi dans la brousse. Alors vraiment, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire.